8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Bienvenue à vous et bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Le Premier ministre annonce un durcissement des peines pour les agresseurs de policiers et de gendarmes en tant que coordonnateur du renseignement. Est-ce que le drame d'Avignon, aussi horrible qu'il puisse être, reste un cas isolé ou bien est-ce que vous observez, Monsieur Nunez, une menace ciblée et grandissante sur nos forces de l'ordre ?
Il y a une montée en puissance, le ministre l'a dit, le Premier ministre l'a dit, il y a une montée en puissance des violences contre les forces de l'ordre qui se traduit par une augmentation des prises à partie, des refus d'obtempérer et dans certains cas, on l'a vu malheureusement à Avignon, des homicides. Donc il y a une réelle prise à partie des forces de sécurité intérieure qui augmente et donc il fallait réagir fermement. C'était ce qui était lancé dans le cadre du Beauvau de la sécurité et le Premier ministre a annoncé des mesures très fortes hier. Très très forte.
Partant du profil du suspect pour l'assassinat d'Éric Masson, est-ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, est-ce que vous l'observez, des profils hybrides entre trafic et criminalité, voire très grande criminalité, comme dans ce cas-là?
Il y a, vous savez, les trafiquants de drogue ne sont pas des enfants de cœur. Il y a beaucoup de violence entre eux. Et quand les policiers, les gendarmes également, en zone de gendarmerie, interviennent pour démanteler des réseaux, comme ils le font énormément, la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité. Et quand ils le font, évidemment, ils dérangent et ils dénoncent des réactions extrêmement violentes. On l'a vu dans les circonstances dramatiques qui ont entraîné la mort d'Éric Masson, pour lequel j'ai une pensée très forte. Ce matin, jour d'hommage national pour lui, pour sa famille et pour ses collègues. Et ça traduit tout l'engagement et les dangers aussi du métier de policier.
Mais est-ce une réaction, comme vous le dites, à la lutte anti-trafic de drogue ou alors, et on l'observe, M. Nunez, depuis quelques jours, il y a des inscriptions qui ont été retrouvées à Paris, où il était tagué « Magnanville partout ». Hier, à Lyon, il était inscrit sur un mur « Balle dans le front » pour Éric Masson. Prochaine cible, brigade spécialisée du terrain du 8e à Lyon. C'est une menace directe et claire. Qui est derrière cette rhétorique ?
Partout où les forces de l'ordre, et c'est-à-dire partout sur le territoire où les forces de l'ordre luttent contre les trafics de stupéfiants, on dérange, on gêne. Je l'ai vécu lorsque j'étais préfet de police à Marseille. Je l'ai vécu dans d'autres fonctions, notamment en Seine-Saint-Denis. Partout où nous intervenons partout, nous dérangeons et nous déclenchons évidemment ces réactions qui peuvent prendre la forme de violences urbaines, de prise à partie de fonctionnaires de police. Et donc partout où nous sommes présents,
oui,
nous dérangeons.
Mais cette rhétorique aujourd'hui, parce que vous êtes coordinateur du renseignement national, vous avez quand même une idée. Est-ce que ce sont des antifas, des black blocs qui utilisent aussi la rhétorique
non,
des terroristes islamistes, Magnanville partout?
Le renseignement français, d'abord deux choses. Le renseignement français documente ce que je viens de dire. Les services de renseignement travaillent sur les réactions à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et ce qui conduit à déclencher les violences urbaines, des prises à partie de policiers, c'est aussi l'efficacité des actions que mènent les fonctionnaires de police pour lutter contre la drogue. La question que vous posez entre le lien finalement, c'est la question directe que vous me posez, c'est le lien entre les trafiquants de drogue et le terrorisme islamique, elle n'existe pas.
Il n'y a pas de profil hybride aujourd'hui, pas de passerelle.
Comme on peut l'entendre ici ou là. Profil hybride, il faut que vos auditeurs comprennent bien ce que ça signifie. Ça signifie que des individus pourraient financer des actions terroristes avec des actions de délinquance de droit commun, avec du trafic de stup. Financer du terrorisme avec de l'action de trafic de stup ou l'inverse. En réalité, ça n'existe pas, ça peut exister dans des pays étrangers, ça a pu exister dans le passé avec des groupuscules terroristes d'ultra-gauche qui finançaient leur action par des braquages, des actions de droit commun, mais ça n'existait pas. En revanche, nous sommes très attentifs évidemment à ce que les choses ne dégénèrent pas en ce sens, nous sommes très attentifs et ça n'empêche pas qu'il y a certains profils qui peuvent passer de l'un à l'autre.
Mais vous ne me dites toujours pas qui est derrière cette rhétorique.
Les Kouachi qui avaient eu des parcours de droit commun.
Mais derrière cette rhétorique, cette tag insupportable, inadmissible, infâme, qui se cache ?
Ce sont des tags menaçants, des tags insultants et qui sont généralement inscrits dans les endroits, encore une fois, où l'action de la police est présente parce que, je veux le dire à vos auditeurs, les forces de l'ordre, gendarmes, policiers sont présents partout sur le territoire national.
Vous parlez aussi régulièrement, Laurent Nunez, de groupes de menaces, de groupes radicaux d'ultra-droite et d'une réelle menace. Mais à combien vous estimez aujourd'hui en France ces militants d'ultra-droite ?
Mais écoutez, ce sont quelques centaines d'individus, hein, des militants d'ultra-droite, dont d'ailleurs là, on note une évolution hein, dans la mouvance avec des individus qui s'inscrivaient dans des partis d'ultra ou d'extrême droite, d'ultra-droite traditionnelle. On voit de plus en plus la mouvance évoluer vers la clandestinité et assez rapidement la volonté de passer à l'action violente. 6 groupes ont été démantelés depuis 2017, si on prend en compte le groupe néo-nazi qui a été démantelé ces jours derniers. Donc nous sommes à 6 groupes démantelés qui avaient des projets d'action violente en tête.
Mais si cette menace est aussi importante, réelle, pourquoi a-t-on 10 fois ou même plus hein, de personnes, 10 fois moins, de personnes dans les prisons en France pour leur lien avec avec les réseaux terroristes djihadistes que pour leur lien avec l'ultra-droite, 10 fois plus, hein, pour les réseaux djihadistes. Pourquoi ?
D'abord, évidemment que nous avons été frappés par de nombreux attentats terroristes ces dernières années, et il n'y a pas eu d'attaque de membres de la cellule ultra-droite. Toutes ces cellules ont été démantelées.
D'où ma question, est-ce que la menace est exagérée ?
Comme l'ultra-gauche,
est-ce qu'elle est réelle, comme vous
l'ultra-gauche, d'ailleurs, j'insiste, à la fin de l'année 2020, un groupe a été démantelé qui appartenait à l'ultra-gauche et qui voulait passer à l'action violente et qui est poursuivi pour des faits en lien avec le terrorisme. Nous ne quantifions pas les menaces. Pour nous, toutes les menaces sont importantes. Qu'il s'agisse de l'islam, le terrorisme islamiste sunnite, qu'il s'agisse de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche.
Mais est-ce que vous les hiérarchisez en fonction des victimes quand même ?
Toutes les menaces pour nous sont importantes et sont prises en compte.
En parlant d'extrême droite, Laurent Nunez, le Premier ministre qualifie ce matin la nouvelle tribune des militaires de texte d'extrême droite. Pourriez-vous nous dire quels sont les mots ou les phrases d'extrême droite dans la tribune ?
Mais c'est un texte d'abord qui est anonyme, hein, donc c'est toujours difficile de commenter un texte anonyme. Il est évidemment très politique.
Quand c'est signé, ce sont des factieux. Quand il est anonyme, ce sont des lâches.
C'est pas très courageux. On ne sait pas qui se cache derrière. Bon, donc et c'est très politique dans la mesure où tout le verbatim de cette tribune, si on veut rentrer sur le fond, encore je veux pas faire une grande publicité à ce texte. Mais quand on rentre dans le fond, on se rend compte de quoi ? On nous parle d'abandon de la France à l'islamisme. On nous parle de quartiers avec des
d'accommodement à la délinquance.
On nous parle de quartiers laissés à l'abandon, de la loi du plus fort.
Et vous contestez cela ?
Mais évidemment que je le conteste.
C'est un déni de votre part, un aveuglement de votre part ?
Ce n'est pas un aveuglement.
Il n'y a jamais eu d'accommodement ?
Non, nous ne sommes pas naïfs. Évidemment qu'il y a une mouvance séparatiste, islamiste, politique qui veut nous diviser, minoritaire qui veut nous diviser. Évidemment que des trafiquants de drogue veulent mettre sous une coupe régler des quartiers. Ça existe, évidemment que ça existe. Mais évidemment que l'État n'est pas défaillant et que depuis 2017, beaucoup de moyens sont mis, avec beaucoup de résultats positifs, pour lutter à la fois contre le séparatisme, le terrorisme et à la fois contre le trafic. Mais est-ce que ça vous choque
qu'il vous ait parlé de guerre civile ? Est-ce que pour vous, c'est un langage d'extrême droite ? Guerre civile qui couve.
C'est exciper une menace qui n'existe pas. La guerre civile, c'est l'affrontement d'un camp contre un autre. La République française est une et indivisible. Il n'y a pas un camp contre un autre dans notre pays.
Et pourtant,
il y a des individus qui commettent des infractions. Il y a des individus qui veulent prôner la dominance d'une loi religieuse et qui conduit vers un séparatisme que nous combattons. Et ces gens sont une minorité qu'il faut combattre. Et en menant ces actions, nous voulons d'abord protéger ces quartiers.
Pas de risque d'affrontement, dites-vous. Et je reprends, c'est la rhétorique de cette tribune, guerre civile. Pourtant, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, après les attentats du 13 novembre, le patron alors de la DGSI, Patrick Calvard, devant la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, affirmait, et je cite, je prends sa phrase mot pour mot, « Nous sommes au bord d'une guerre civile ».
Non, Patrick Calvard visait quelque chose.
Est-ce que ce sont ces mots qui ont été prononcés?
Oui, je n'aurais pas prononcé moi-même le mot de guerre civile.
Très bien, mais ils ont été prononcés par quelqu'un qui n'est pas accusé d'extrême droite.
Ce que visait Patrick Calvard, et il a d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, il a d'ailleurs organisé la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, que j'ai dirigée, pour ne jamais négliger les menaces provenant des mouvements ultra. Parce qu'il disait, Patrick Calvard, attention, la montée en puissance de la menace terroriste, et a fortiori quand des actes terroristes islamistes sunnites sont commis, peut conduire certaines parties de la population extrêmement minoritaires, il pensait évidemment à l'ultra-droite, peut les conduire à mener des actions de représailles. Ils vont se sentir finalement légitimés par ce qu'il se passe.
Ça s'appelle un affrontement qu'elle a pointé, cette tribune dit la même chose.
Ça s'appelle du terrorisme. Donc c'est pas d'affrontement, c'est du terrorisme. Ils peuvent conduire une minorité de personnes à passer à l'action violente pour se prémunir d'une menace terroriste islamiste sunnite. C'est ce que voulait dire Patrick Calvard. Et c'est pour cela que les services de renseignement sont organisés pour suivre ces mouvances, les détecter et les entraver comme cela a été fait ces dernières années.
Vous conviendrez, M. Nunez, ce matin qu'en cas, et évidemment, personne ne l'espère, qu'en cas de très vive tension dans le pays, une réflexion sur une intervention de l'armée sur le territoire national n'est pas une hypothèse farfelue ni totalement taboue.
D'abord, l'intervention de l'armée, elle existe, elle prend la forme de sentinelle. Ce sont des opérations de sécurisation, dont je note d'ailleurs qu'ils ne vont pas dans les quartiers. Et quand je lis ça dans la tribune, la fameuse tribune, que certains militaires, une minorité forcément, expliquent que les forces sentinelles ont vu des choses dans les quartiers, c'est juste pas possible parce qu'ils ne vont pas dans les quartiers.
Ils ont aussi leur regard de citoyens.
Nous avons donc des forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire national, qui assurent des missions de sécurisation. Et les missions de sécurité publique, de lutte contre la délinquance et de maintien de l'ordre public, ce sont les forces de sécurité intérieure qui le font, elles le font très bien.
Non mais je ne parle pas de l'opération Sentinelle. S'il y a de très vives tensions, est-ce que vous avez un scénario sur la table, et vous faites partie du renseignement d'intervention de l'armée totalement encadré évidemment et avec l'accord du pouvoir évidemment.
Les forces armées sont là pour nous protéger, assurer des missions de sécurisation et nous protéger aussi à l'extérieur du territoire. Elles le font remarquablement.
À l'extérieur,
et c'est
oui.
pas un scénario
Mais
dans
sur
lequel
notre sol.
Ce n'est pas un scénario dans lequel je veux me placer. Encore une fois, tous ceux qui nous divisent, que ce soit par des théories politiques qui visent à prôner la supériorité d'une loi religieuse, tous ceux qui veulent nous diviser par des actions de délinquance, de mise en coupe réglée de quartier pour le trafic de stupes, nous luttons contre ces personnes et nous n'aurons jamais un camp qui affrontera l'autre.
Ça, c'est l'aspect politique, mais de manière factuelle, permettez-moi de vous soumettre, ainsi qu'à nos auditeurs, ce qui est écrit dans ce document que j'ai entre les mains. Il s'agit d'une lettre du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard. Une lettre adressée, Laurent Nunez, en avril 2020 au chef d'état-major des armées dans le cadre de l'opération Résilience. Des extraits avaient été d'ailleurs publiés dans Valeurs Actuelles. Il est dit, dans le paragraphe, les missions de l'armée de terre, un appui aux forces de l'ordre n'est pas à exclure. Si la situation sécuritaire le nécessitait, l'armée de terre serait alors en mesure d'exécuter ses missions avec les difficultés et les risques associés si la situation venait à se durcir. Donc l'hypothèse qu'évoquent ces militaires n'est pas farfelue.
Non,
ce sont vos scénarios sur la table.
Écoutez, ce qui est totalement farfelu, ce sont les conditions du déclenchement d'eux. Je ne les partage
Mais
pas.
Le fond,
nous ne sommes pas
Genèse.
Au bord d'une guerre civile. C'est complètement faux. La réalité de l'action, ce sont des forces de sécurité intérieure qui mènent une lutte déterminée pour éradiquer le trafic de stupéfiants des quartiers. Il n'y a pas de quartiers qui sont laissés à l'abandon. Et c'est une lutte déterminée de nos services de renseignement, de nos forces de sécurité, avec tous les acteurs de la société, pour lutter contre le séparatisme islamiste qui n'a pas sa place dans les quartiers et qui n'a sa place nulle part en France. C'est ça la réalité.
Merci Laurent Nunez d'avoir en tout cas répondu à toutes nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Marion Calais.